voici de retour la fine équipe de Comaguerre au complet avec Abibs, que je salue, bonjour.
Bonjour.
Roselyne qui est dans la cabine technique prête.
Bonjour.
Casquée, pas beauté, parce qu'on n'est pas comme ça, nous, elle est juste casquée, c'est tout. Et puis voilà, Bernard au micro.
Bonjour Roselyne.
Bonjour Roselyne. Voilà. Et on est au micro pour vous donner un petit regard sur l'actualité. Alors je vais commencer, on est le 20 juin, par revenir un tout petit peu sur le 18 juin. 18 juin, date historique dans l'histoire de la République française au XXe siècle, que chacun connaît et situe, donc le fameux appel du général de Gaulle qui dit « ben non, la guerre n'est pas finie, je vais la continuer et qui même me suivent », et donc un certain nombre de gens le suivront, en insistant sur le fait « je le fais, il le faisait aussi à l'époque, on le fait moins », c'est-à-dire que la majorité de ceux qui vont le suivre sont plutôt des colonisés de la France. Et j'en parle d'autant plus facilement que le père d'Abib, qui est à mes côtés, a fait partie de ceux... Alors, la Syrie n'était pas colonisée, elle était sous mandat de la Société des Nations, mais le père d'Abib, donc, qui est à ma droite, en fait, s'est engagé dans les forces françaises libres. Lui, un simple paysan syrien, a défendu la France, a contribué à libérer la France. Il n'en est pas mort, et tant mieux. Voilà. Mais il ne parle pas des peuples kurdes deux jours après, il fait mention de l'Empire. Alors, il ne parle pas des peuples colonisés comme je le fais, mais l'Empire, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le gros des forces, des forces françaises libres va venir beaucoup des colonies. À commencer, on le sait, par la... Non pas le Tchad, mais la République centrafricaine, avec le gouverneur Félix Eboué.
Bon.
Alors, je ne reviens pas là-dessus. Je voulais simplement dire qu'il est normal que tous les ans, la République française, 5e après la 4e, célèbre cette date-là, parce qu'au fond, il s'en est fallu de pas grand-chose. Qui aurait pu dire le 19 juin 1940, quand la France était occupée et qu'elle avait un complice au gouvernement à Vichy, qui aurait pu dire que la France, d'une part, serait dans le camp des vainqueurs 4 années plus tard et qu'elle reprendrait sa place dans les grandes puissances, alors je mets ça entre guillemets pour fâcher personne, mais parmi au moins les moyennes puissances ayant vocation à orienter l'activité du monde et ayant de ce fait accès au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est beaucoup, parce que, regardez bien, il n'y a que des vainqueurs dans le Conseil de sécurité de l'ONU. L'URSS, donc remplacée par la Russie, la Chine, puisque la Chine a remplacé Taïwan à l'ONU en 1971, et puis, donc, la France, la Grande-Bretagne, et donc, on a le compte, il n'y a que des... et les États-Unis, bien entendu, on n'a que les vainqueurs. Et effectivement, des puissances aussi importantes aujourd'hui économiquement que la France, je pense à l'Allemagne, ne sont pas au Conseil de sécurité et, j'allais dire, ne sont pas prêts d'y être, parce qu'il est très clair dans la Charte des Nations Unies que les organes dirigeants de l'ONU, qui est le Conseil de sécurité, c'est l'organe exécutif, c'est celui qui peut prendre des décisions. L'Assemblée générale vote des orientations, mais le Conseil de sécurité prend des décisions. Les vaincus fascistes et nazis de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas parce qu'ils ont été simplement battus par les armes, c'est parce qu'ils représentaient des régimes fascistes, nazis, fascisto-nazis dans le cas du Japon, on le dit pas assez, on dit le régime impérial pour faire gentil, mais enfin les exactions du régime impérial japonais dans la sphère asiatique n'ont pas été moindres que les exactions des nazis et des fascistes sur le continent européen. Donc effectivement, ces trois pays-là qui ont produit donc le fascisme, le nazisme à l'échelle du XXe siècle sont interdits de Conseil de sécurité. C'est tout. Et ça reste vrai. Bon. Donc il est normal que la France, d'une façon ou d'une autre, célèbre chaque 18 juin. Alors, ce qui s'est passé il y a deux jours est quand même assez cocasse, et je vais m'arrêter là-dessus. Puisque, à cette occasion, M. Macron, qui voulait faire parler de lui, puisqu'il ne pense qu'à ça le matin quand il se lève, qu'est-ce que je vais dire, faire dire de moi aujourd'hui ? Il a trouvé une astuce qui a consisté à dire « Monsieur Manouchian va rentrer au Panthéon ». Alors, qui est Monsieur Manouchian ? Monsieur Manouchian, c'est une des victimes de la répression nazie, qui a été donc un résistant du MOI, le mouvement, la main-d'œuvre immigrée. C'était donc un groupement d'immigrés de la main-d'œuvre, donc des ouvriers, des prolétaires, disons pour faire simple, qui se sont battus, qui habitaient en France, qui se sont battus avec la résistance pour libérer la France du nazisme. Bon, c'est tout à fait clair. Et Monsieur Manouchian arménien d'origine, comme son nom l'indique, était le leader de ce groupe de la main-d'œuvre immigrée. Alors, on ne peut pas être plus clair. Il était immigré puisqu'il était né en Arménie. Il faisait partie de la main-d'œuvre, c'est-à-dire du prolétariat, des travailleurs, on dirait aujourd'hui. Et il a participé, les armes à la main. Et d'ailleurs, il en est mort puisqu'il a été exécuté avec la direction des Moy qui avait été prise par les SS. Oui, et donc, il a payé de sa vie. Et il y a, aujourd'hui, j'en parle d'autant plus facilement, qu'on a à Marseille un petit square où il y a un buste de Manouchian pour rappeler ce personnage. Bon. Alors, c'est très très bien que Manouchian soit honoré. Alors,
oui, à quoi, ça c'est vrai, voilà, j'étais content. Voilà. Mais,
alors, à quoi ça a servi ? Alors, c'est là que je me suis mis à réfléchir en disant, bon, il voulait faire parler de lui, il fait effectivement parler de lui. Alors, il y a eu plusieurs types de réactions. Il y a eu des gens qui ont dit, quand même, il a du culot parce que ça ne lui appartient pas. Hein. Évidemment, ça ne lui appartient pas. Alors, arrêtons-nous là-dessus. Ça ne lui appartient pas parce que quand on voit la clique qui vit autour de Macron, les colères, les Attal et tout, évidemment, on n'imagine pas qu'il y en ait un qui un jour rentre dans la résistance s'il fallait. On a affaire à des profiteurs malhonnêtes, tricheurs, etc. Bon, Macron lui-même, j'imagine même pas qu'il ait eu l'idée un jour de passer dans la résistance. Il voulait se servir, arriver là où il est, par tous les moyens. Bon, et donc en fait, on a une espèce... Alors en littérature, on appelle ça l'hommage du vice à la vertu. Et on est exactement dans ce cadre-là. L'hommage du vice macronien à la vertu prolétaire résistante de Manouchian. Là, bravo. Bravo, parce que effectivement, c'était pas prévu. Je pense que les communicateurs de l'entourage de Macron n'avaient pas prévu ça. Mais au fond, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme il n'a pas dans son escarcelle de gens présentables, puisqu'il était plutôt, à ce qu'on a compris, je rappelle quand même qu'il y a quelques années, je ne sais plus quand, mais un des 18 juin précédents, Macron s'est quand même permis de dire Pétain, ce grand soldat. C'était déjà un peu glissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Pétain, la répression des Juifs, enfin, etc., la capitulation, tout ça, c'était très, très discutable. Bon, et donc, on n'attendait rien de M. Macron. Alors, il est allé prendre dans la gauche ce qu'il n'était pas capable de trouver chez lui, puisque ça n'existe pas, les résistants dans la Macronie, des vrais résistants qui mettent leur vie en jeu. Hein, ils ne mettent pas leur vie en jeu, et ils s'occupent surtout de s'enrichir, point à la ligne, c'est tout, le reste ne les intéresse pas. Donc, premier aspect, hommage du vice à la vertu. Parce qu'il avait. Et puis ça fait joli, mais effectivement. Alors ça fait. Je dis, il y a des gens de gauche qui ont dit il nous vole. Mais j'avais dit il vous vole, Manouchian. Mais de toute façon, Macron, c'est un banquier. Un banquier, ça ne sait que voler. Ouais. Hein. C'est leur métier. Hein. Donc ils volent les souvenirs de la résistance, ils volent la mémoire d'un ouvrier qui s'est fait tuer pour la liberté de la France, ils volent, mais il ne sait faire que ça. Il est tout à fait fidèle à son personnage. Pas de surprise. Bon, ça c'est très bien, je trouve au contraire. Hein. C'est un voleur, ben voilà, il agit en voleur, il prend les souvenirs de la République, il prend les souvenirs de la résistance, et il fait comme s'il y était pour quelque chose. Il n'y est pour rien. Simplement, moi, je suis assez content par ailleurs que Manouchian rentre au Panthéon. Hein, parce qu'il y a toute sa place. Je suis d'autant plus content que, je rappelle donc ce que je viens de dire, Manouchian était à la tête de la main-d'œuvre immigrée.
Ouais.
Et donc, ce sera au Panthéon le premier immigré qui sera installé au Panthéon. Ça, c'est très, très important.
Réfugié,
voilà. Et ça évitera, et ça coupe court. Alors, c'est là que je me suis dit, mais est-ce qu'il est bien conscient de ce qu'il a fait ? Non, il a fait un coup de com', il n'a pas réfléchi aux conséquences. En fait, à un moment, et on en parlait la semaine dernière, où la droite, pour prendre la place du Rassemblement National, lance une politique à nouveau sur l'immigration. Alors, on a eu tout ce qu'on a pu avoir avec l'histoire du Syrien, là, avec son couteau. Ouais. Maintenant, on a un angle plus pervers, qui est le classique des fraudes à la sécurité sociale. Alors, on ne dit pas qui sont les fraudeurs, mais enfin, le sous-entendu est tellement lourd hein, dans les fraudes à la sécurité sociale qu'on a aussi, ça fait partie de la campagne anti-immigrés classique de la droite. Et alors, je me dis, c'est assez amusant parce qu'au fond, dans le temps où la droite et le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Darmanin, lance une campagne contre les immigrés. Macron met un immigré au Panthéon. Alors, bon, il s'est un peu marché sur les pieds, mais il est tellement soucieux de sa communication et de faire parler de lui qu'il n'a pas vu le problème. Ça m'amène quand même à revenir sur cette question de l'immigré. L'immigré est le titre de l'équipe de Manouchian est intéressé. Main-d'œuvre immigrée. qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un immigré dans la République française ? Alors, on colle l'étiquette immigré parce qu'il n'est pas né ici, ou il est né de parents qui ne sont pas nés ici, vous savez, l'histoire deuxième, troisième, bien. Bon, mais en fait, ça ne dit rien sur la réalité sociale de cette immigration. Parce que dans cette immigration, il y a effectivement, on peut en voir, des agrégés d'histoire, il y a des infirmières, mais il y a aussi des brancardiers. Il y a aussi... Alors, je pensais à eux pendant le Covid. Pendant le Covid, qui a fait les livraisons dans les magasins et les supermarchés ? Des camionneurs avec des petites camionnettes. Qui c'est le prolétariat qui conduit ces camionnettes ? Ce n'est pas des gens qui ont fait des licences et qui ont des bacs plus 4, il ne faut pas rire. Donc, on a affaire à cette immigration-là qui est là. Alors, qu'il ait la nationalité française ou qu'il n'ait pas, rentrons pas là-dedans. Il a quand même cette étiquette d'immigré. Et dans les hôpitaux, je le disais, il y avait des infirmières et des infirmiers, il y en a dans l'immigration, qui sont immigrés ou enfants d'immigrés, et puis il y a aussi des personnes de salle, des brancardiers, etc., qui peuvent aussi venir de ces milieux-là. Allez dans un hôpital, vous le verrez. Bon, donc on a bien affaire à une couche particulière du prolétariat en général, qui peut aller du manœuvre, du chauffeur qui fait des livraisons avec une petite formation, à l'infirmière, voire plus, oui, j'ai vu des professeurs d'histoire qui sont issus de l'immigration, ça existe aussi. Mais donc, l'immigration, l'étiquette immigrée permet de mettre dans un sac qu'on montre ensuite, qu'on montre les immigrés ceci, les immigrés cela, une réalité sociale qui n'est pas celle-là. Il faut lire l'immigration autrement. Où sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Alors effectivement, on va vous dire qu'ils sont plutôt dans des quartiers défavorisés. Évidemment, quand on est sur le bas de l'échelle des salaires en France, on n'a pas trop le choix pour se loger, et outre les réactions racistes des petits propriétaires. Mais donc on va là où on trouve de la place, et ce n'est pas toujours facile en plus. Et donc, quand on dit les immigrés se rassemblent, ils se rassemblent entre pauvres, comme les enfants d'Italiens se rassemblaient entre pauvres dans certains quartiers au début du XXe siècle à Marseille. C'est la même chose. Donc le prolétariat, ou même le sous-prolétariat, mène une vie de prolétaire. Qu'il soit immigré ou pas, c'est un phénomène secondaire. Donc cet emballage linguistique ou sémantique de l'immigré cache toute la réalité sociale de ces personnes-là. C'est tout à fait important. Et donc le fait de mettre un immigré au Panthéon, ça permet de sortir de ça, effectivement, main-d'œuvre immigrée. L'immigration, elle n'est pas venue simplement... Alors, effectivement, on va vous dire la situation dans leur pays, les cités, ça et tout. Mais si on les a laissés rentrer, ça n'a pas commencé en 1945, ça a commencé en 1919. Si on a laissé rentrer des immigrés, qui à l'époque étaient déjà algériens, mais aussi polonais, etc., c'est parce qu'il y avait eu trop de morts au front. Et donc, il fallait faire tourner les usines. Il y a toujours un besoin de l'économie et du patronat.
Travailler les femmes.
Mais bien sûr, bien sûr.
Au début, rappelez-vous.
Donc, l'immigration, ce n'est pas simplement des gens qui ont fui leur pays. Il y a aussi un accueil qui est compliqué avec des barrières sanitaires, administratives et tout. Mais au fond, il y a toujours une acceptation par le patronat. Et quand il n'y a pas cette acceptation, le verrou se ferme. On n'en est pas là. Donc, c'était intéressant de revenir sur cette catégorie de l'immigré. Bon, il y a des très bons immigrés, Manouchian, exemplaire. Wow. Et puis, il y a aussi des proxénètes chez les immigrés. Mais ça fait partie de la distribution sociale de cette catégorie, cette couche de la population.
Il y en a eu à Paris qui ont sauvé la vie gens qui sont tombés dans la Seine.
C'était
des immigrés.
Tout à fait. Bon. Donc, arrêtons. Alors, ce vocable, il faut le bannir de notre vocabulaire. Ça ne veut rien dire. C'est un espèce d'épouvantail qu'on va utiliser là maintenant pour la sécurité sociale et les fraudes à la sécurité sociale. Alors, je rappelle, parce que c'est à l'ordre du jour de ces jours-ci, les fraudes à la sécurité sociale, on avance le chiffre de 10 milliards d'euros, peut-être sur un budget de l'assurance maladie qui est de l'ordre de 300 milliards, ça fait quand même que 0,3%, mais on ne parle pas des 100 milliards de fraude fiscale. C'est pas les mêmes. Alors, il y a une fraude dont on parle, et l'eau à la fraude. Bon, donc il y a la fraude immigrée, je la mets entre guillemets, parce que bien entendu, on va pas nous dire qu'il y a que les immigrés qui fraudent à la sécurité sociale, mais c'est sous-entendu, c'est derrière, c'est tout près. Hein, et dans les conversations privées, au marché, on dit, oui, mais on sait bien qui c'est, machin chose, etc. Et on n'ira pas regarder pourquoi M. Bolloré, M. Pinault et tout ne déclarent pas d'impôts en France ou le moins possible. Alors, non, bon, voilà. Donc, c'était très intéressant de s'arrêter sur cette nomination de M. Manouchian et son arrivée au Panthéon, parce que ça permet de réfléchir à cette catégorie qui est un espèce de fourre-tout et un épouvantail qui est destiné à alimenter des campagnes politiques et qui nous prépare aux élections européennes d'abord et à la future élection présidentielle, puisque, enfin, je vous dis, le fond du problème, ça s'est confirmé par les positions d'Édouard Philippe et de quelques autres, c'est que la droite traditionnelle a peur de manquer d'espace pour les présidentielles de 2027, et donc elle est en train de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aller ramasser des voix chez le Rassemblement national. C'est ça le sens de la politique d'immigration. Alors après, les immigrés se débrouillent là au milieu, c'est-à-dire ils vont être montrés plus du doigt que jusqu'à présent, on va dire que ceci, on va dire que cela. Non, les immigrés, ça donne des Manouchians, et c'est ça que je retiendrai du geste de Macron. Hein, c'est un hommage du vice à la vertu. Voilà, voilà, j'en ai assez dit, mais il fallait que ce fût dit. Et puisqu'on parlait de l'Arménie, je vais vous parler de l'Arménie, parce que là aussi, il se passe des choses assez intéressantes, mais non décisives. Alors, vous savez qu'il y a eu plusieurs conflits. Quand l'Arménie et l'Azerbaïdjan, son voisin, étaient deux républiques socialistes soviétiques dans l'URSS, du temps de l'URSS. Bon. Et donc, les problèmes de répartition des populations, et c'est vrai dans tout ce secteur-là et dans le Caucase et tout, les populations, elles n'attendaient pas que Moscou ait décidé de découper les républiques socialistes de cette façon, de telle façon-là. Elles habitaient là où elles habitaient. Bon, il se trouve que sur le territoire de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, il y avait des Arméniens. Bon, c'était comme ça. Voilà. Bon. Et puis c'était comme ça, et puis ça posait pas problème du temps où l'URSS existait, puisqu'on était dans le même pays. Bon. Et il y avait des minorités partout. Bon. Voilà. Il y avait des Arméniens un peu partout, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Donc je vais y revenir. Bon. Donc ça posait pas problème. Ça a posé problème dès l'instant où l'URSS a explosé. Ou a été détruite par ses dirigeants. Bon. Et à partir de ce moment-là, les positions nationalistes se sont exacerbées et les Azéris se sont mis à dire « Mais qu'est-ce que font ces Arméniens sur notre territoire ?» Bon. Ça a dégénéré, ça a débouché sur une guerre en 1994. Une guerre assez violente, une guerre avec des vraies armes, des vrais chars d'assaut, etc. Mais que les Arméniens ont gagné. Et bon, il s'est installé depuis une situation d'une certaine façon instable, puisqu'au fond, il y avait à l'intérieur de l'Azerbaïdjan une principauté, un territoire arménien, habité par des Arméniens, gouverné par des Arméniens, mais qu'à aucun moment, ni l'ONU, ni même l'Arménie n'a reconnu comme faisant partie du territoire arménien. Il y avait une espèce de situation de fait.
Un peu comme le Golan.
Oui, voilà. Bon, ils étaient là, mais enfin, personne n'était d'accord, et le gouvernement azéri, encore moins que les autres. Bon. On a hérité de ça et c'est resté jusqu'au prochain. Alors ça, c'est le conflit de 94 qui s'est renouvelé il y a 2 ans. Ça a recommencé. Ouais. Ça a recommencé. Alors ça s'est arrêté alors que le massacre était en cours avec une intervention armée, enfin une aide militaire turque extrêmement importante en faveur des Azéris. Solidarité de voisinage. Et ça s'est arrêté parce qu'il est venu un arbitre qui est arrivé avec son autorité politique et morale en disant « Moi, je veux que ça s'arrête. » Et c'était la Russie. Qui a dit « Je veux que ça s'arrête et je sers de force d'interposition. On arrête les combats. Bon. » La situation, depuis, est gelée. Hein. Alors, il semble bien qu'une partie des Arméniens qui vivaient dans ce secteur soit partie, mais il en reste. Et puis, on sait aussi que du côté des Azéris, il y a des gens qui voudraient bien les voir partir. Ça, c'est tout à fait clair.
Occuper, bon. Ouais.
Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que la Russie, à nouveau, comme la mesure, la tension remontait sur cette question-là, la Russie, à nouveau, a reçu les deux, le premier ministre iranien, le premier ministre arménien et le président de l'Azérie, pour dire qu'il faut essayer de sortir de cette situation-là. On avance, en ce sens que il est même acquis que le premier ministre arménien a reconnu que le territoire du Karabakh ne faisait pas partie de l'Arménie. Il a reconnu un fait. Ce n'est pas la peine que la législation internationale, l'ONU, personne ne le reconnaisse et que lui s'entête. Même si ça passe assez mal dans l'opinion arménienne sur place. Mais c'est un geste de détente. Il faut savoir que la détente ne peut pas venir que de là, parce qu'il y a de l'autre côté un problème territorial qui concerne l'Azerbaïdjan, qui est aussi compliqué que le problème du Haut-Karabakh. Regardez une carte de l'Arménie et vous allez voir que vers le sud, vous avez à droite l'Azerbaïdjan et vous avez à gauche un autre morceau de l'Azerbaïdjan qui n'a aucun lien physique avec l'Azerbaïdjan. Ça s'appelle le Nakhitchevan. La seule issue, quand on habite le Nakhitchevan, on est de nationalité azérie, et quand on veut sortir de son pays, on est obligé de passer par la Turquie. C'est la seule porte. On passe pas par l'Arménie parce qu'on s'entend pas, hein, donc on passe par la Turquie. Et donc là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan demande, et c'est justice, hein, qu'il puisse avoir un accès, que l'Azerbaïdjan puisse avoir un accès à sa province qui est séparée de fait du pays. Ça suppose de passer sur le territoire arménien. Parce qu'il est là. Et qu'en dessous, on pourrait dire, ben, ils peuvent faire le tour. Hein, ils pourraient faire le tour. Mais en dessous, pour faire le tour, il faudrait passer chez les Iraniens. Là, c'est il faudrait ça, que les Iraniens soient d'accord. Hein. C'est pas évident. D'autant plus que, pour les Arméniens, la sortie iranienne est la seule qui soit protégée et viable. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous habitez en Arménie, je ne pense pas de prendre l'avion, mais si vous voulez sortir par la route ou à pied de votre pays, vous n'avez qu'une frontière où vous serez bien accueilli, vous passez, c'est l'Iran.
Ouais.
Donc, vous avez là un autre nœud. Alors, on parle beaucoup du nœud du Karabakh. J'ai exposé bon, ce territoire qui est occupé par des Arméniens de naissance, mais qui ne fait pas partie de l'Arménie, et ça a été maintenant reconnu et confirmé. Et puis, vous avez cette espèce de découpage du territoire azéri qui n'est pas viable et auquel il faut trouver une solution, c'est-à-dire trouver une façon de faire passer donc, des trains, des voitures, de la population du côté gauche et du côté droit de l'Azerbaïdjan.
Ah ouais.
Ça suppose que l'Arménie soit d'accord. Donc, alors, ça ne s'est pas réglé, mais je vous dis, donc, il y a une quinzaine de jours, Poutine a reçu les deux responsables, donc le premier ministre arménien et le président de l'Azerbaïdjan, et il a insisté, et il pèse de tout son poids, pour qu'on trouve une solution à ces deux problèmes, qui sont des problèmes territoriaux, qui ne se posaient pas du temps de l'URSS. Et vous imaginez que l'Iran regarde ça avec beaucoup de curiosité.
Ouais, parce que
c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, ils sont concernés.
Ben, ils sont tout à fait concernés. Donc par où passera, alors on sait par exemple, pour vous dire que le dossier est plus chaud qu'il n'en a l'air, du côté Azerbaïdjan, côté Est, le gros Azerbaïdjan, le gros morceau là où il y a Bakou, la capitale, le long de la Caspienne, on est déjà en train de préparer la voie de chemin de fer jusqu'à la frontière arménienne. Mais après, on ne sait pas où la faire passer, parce qu'il faudrait l'accord de l'Arménie pour continuer la voie ferrée et la faire passer dans la province isolée du Nakhitchevan. Et tant que l'Arménie n'a pas dit d'accord, ça ne se fera pas. Hein, et de toute façon, et la Russie empêchera que ça se fasse. Hein. Donc, on a un dossier qui est en train de se dénouer progressivement, mais qui suppose que l'arbitre, et je veux parler de la Russie, que l'arbitre fasse régner le calme sur le terrain de jeu en expliquant que tout le monde a intérêt, l'Arménie à régler ce problème-là qui est ancien, et l'Azerbaïdjan aussi à ce problème, pour que, une fois pour toutes, il n'y ait pas ce conflit permanent du fait que tant que ces deux problèmes-là ne sont pas réglés, on ne peut pas dire qu'il y aura la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est trop compliqué. Hein. Et ils y sont plus ou moins pour pas grand-chose. C'est-à-dire, autant, je dis, c'était facile du temps de l'URSS où il y avait un pouvoir central et puis on vivait comme on pouvait. Mais je sais, par exemple, j'ai reçu des témoignages d'Arméniens qui ont quitté l'URSS à l'époque, que ceux des Arméniens qui habitaient Bakou ont été extraordinairement maltraités, voire victimes de tentatives d'assassinat dans les rues de Bakou, parce qu'ils étaient Arméniens. Il y avait un racisme anti-arménien en Azerbaïdjan. Il y avait probablement aussi la même chose de l'autre côté. Bon, donc, il faut sortir de ça et trouver une solution d'avenir qui convienne d'une part à l'Iran, observateur important, et d'autre part aux deux protagonistes, et dont la Russie soit le garant, d'autant plus que quand même l'Arménie fait partie.
Parce que
de...
y a des Azeris iraniens. Hein.
Oui, alors il y a aussi ouais. des Azeris d'origine qui habitent sur le territoire iranien. Dans le nord-ouest de l'Iran, il y a des Azeris. Donc voilà, un dossier qui est explosif et qui peut dégénérer. Vous voyez, deux guerres depuis 20 ans, mais que la Russie devrait réussir à maîtriser si l'Occident ne met pas le désordre. Parce que je signale que M. Pachinian, qui s'est calmé là, puisqu'il a dit effectivement, il faut dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas l'Arménie, le Karabakh et tout, il a quand même été porté au pouvoir avec l'aide des États-Unis en espérant qu'il mettrait le désordre dans le secteur. Bon, ça n'a pas marché. Il faut savoir aussi, je le rappelle, ça a son importance en termes diplomatiques, que le président Aliyev, fils de son père, qui est donc président de l'Azerbaïdjan, est président en exercice du mouvement des non-alignés. Donc il représente un poids politique et en même temps il est tenu par cette présidence à tenir des positions qui ne soient pas excessives et hostiles à un autre État, les non-alignés. Alors l'Arménie ne fait pas partie des non-alignés, mais elle fait partie de l'organisation du traité de sécurité collective avec la Russie. Donc elle a quand même un appui militaire. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est un conflit qui n'est pas réglé, mais qui devrait aller vers une solution satisfaisante et surtout durable. Et puisqu'on parle de l'Iran, je vais continuer. Je vais continuer parce qu'on en a beaucoup parlé et c'est bien qu'on en ait parlé à propos de la guerre d'Ukraine. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais il a été question de drones ukrainiens, utilisés par la Russie. Alors ça a été un peu... Alors d'une part, quand il a été question de drones iraniens, il y a eu une campagne occidentale très très vive en disant « Ah, c'est pas normal, l'Iran ne doit pas aider la Russie ». Bon, alors effectivement, les Iraniens ne sont pas émus outre mesure. Ils ont dit, de toute façon, vu la façon dont vous nous traitez, hein, les sanctions, les ci, les ça, le non-respect de l'accord sur le nucléaire, etc., on ne voit pas pourquoi on se coucherait devant vos agitations. Bon. Ouais. Donc, ça s'est fait. Et donc, il est clair aujourd'hui qu'il y a eu des drones iraniens qui sont allés en Russie. Et il est clair aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui en Russie une usine qui fabrique des drones d'origine iranienne sous licence ou avec un accord de coopération technique. Bon. Il s'agit de drones d'excellente qualité, c'est dans les meilleures qualités mondiales de drones, y compris des drones hypersoniques.
Alors ça, c'est très fort. Nouveau.
Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des drones donc fabriqués en Iran, sur le modèle iranien, inventés par l'Iran, parce que personne d'autre en a fait qu'eux, qui sont capables de voler à 15 000 km à l'heure. Bon, donc personne ne les arrête. Hein. Et il semble bien, alors personne ne s'en est vanté, mais qu'ils aient déjà utilisés par la Russie sur certains objectifs militaires sur le territoire ukrainien, pour faire sauter des dépôts d'armes, des choses comme ça.
Bon. Et les chars allemands.
Entre autres choses. Donc voilà une réalité iranienne sur laquelle il faut insister. C'est d'autant plus important de situer ces performances donc militaires de l'Iran, que l'Iran passe son temps à dire « Je ne veux pas l'arme nucléaire, j'ai d'autres façons de me défendre. La preuve, si on m'attaque, j'utilise ces drones hypersoniques. » Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'après l'assassinat félon, la félonie de l'assassinat du général Soleimani à Bagdad, que le général Soleimani allait à Bagdad pour rencontrer des émissaires saoudiens pour calmer la guerre d'Irak. Bon. Au lieu de ça, Trump a décidé que Soleimani devait mourir. Hein, et il est mort. Bon. Vous savez aussi qu'après, l'Iran a riposté pour la forme en envoyant donc de ses missiles. Alors, je ne sais pas si c'était des hypersoniques à l'époque, mais ils ont atteint leur cible sur un camp américain. Voilà, sur une base américaine dans le nord de l'Irak. La riposte est venue, et je pense que le message a porté. C'est-à-dire que l'Iran n'a pas besoin de bombes atomiques pour se défendre. C'est le discours qui tient depuis des décennies, et là, ils l'ont prouvé en disant, regardez, quand on nous fait de la peine, ben, on se défend, et on se défend comme ça. Hein, nous, c'est une arme de défense, mais on est très très fort, très très fort en drone. Ceci s'ajoute au fait que depuis donc 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas, l'Iran est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire a des liens étroits et fraternels avec la Chine et avec la Russie simultanément. Deuxième aspect qui est très très important pour la géographie politique régionale. Troisième aspect, je vous parle des relations militaires, donc par rapport aux fournitures de drones, etc. Troisième aspect, ce qu'on appelle le corridor iranien. C'est une autre donnée. Ou là, ce qu'on appelle aussi la voie nord-sud. C'est-à-dire qu'il est en train de se mettre en place, avec l'accord, bien entendu, de l'Iran et de la Russie, un corridor de transport, de logistique, pour le transport des marchandises de toutes sortes, qui partirait donc du golfe Persique, qui aboutirait dans un port iranien, qui traverserait l'Iran par des voies ferrées et qui réembarquerait sur des bateaux sur la Caspienne pour aboutir à un port au nord de la Caspienne, qui est un port russe. Et donc, on aurait un accès direct à la Russie sans passer par le canal de Suez, très très court, hein, depuis l'Inde par exemple, ou le Pakistan, ce serait tout à fait court. On rentre dans le golfe Persique, on débarque en Iran et on traverse la mer Caspienne de l'autre côté. Ce corridor est en cours de mise en place. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est très très important, ça modifie beaucoup la logistique de cette région-là du monde qui ne pouvait pas se modifier tant que les relations politiques étaient compliquées. Dès l'instant où les relations politiques sont apaisées, on peut travailler sur ce genre de dossier. On ne va pas créer des voies ferrées avec tout ce que ça comporte, des milliers de kilomètres de voies ferrées, entre deux pays qui sont en guerre. Donc il faut un certain climat de paix, de confiance, et à ce moment-là, ces infrastructures logistiques peuvent se mettre en place. C'est la même chose que fait la Chine de son côté avec la route de la soie. C'est exactement le même principe. Mais je voulais insister là-dessus en disant que l'Iran est en train de se mettre à peser de plus en plus lourd sur la scène internationale du fait de son positionnement très très clair, très proche de la Chine, puisqu'il y a des fournitures de pétrole et puis il y a des échanges économiques, très proche de plus en plus de la Russie pour les aspects que je viens de développer. Donc on en fait à une véritable puissance régionale que nous, enfin que l'Occident, pas moi, que l'Occident a décidé de montrer du doigt systématiquement sans prendre la mesure de son évolution. Alors l'Iran, je rappelle, est quand même sous embargo et sous sanctions états-uniennes depuis très très longtemps. L'Iran, on lui a fabriqué, avec l'aide de Saddam Hussein qui s'y est prêté, tant pis pour lui, il en est mort d'ailleurs, on lui a fabriqué 10 ans de guerre pour épuiser la révolution iranienne et pour sacrifier une partie de ses jeunes générations. Il faut savoir que pendant la guerre Iran-Irak, donc de 79 à 89, l'Iran a fait combattre des garçons à partir de l'âge de 13 ans pour sauver son territoire. Donc il y a une véritable saignée qui s'est occupée. Et ça, c'était une guerre suscitée par les Occidentaux pour détruire la révolution iranienne. Ça, cette page-là est manifestement tournée, c'est-à-dire que quand on dit comme le président chinois en ce moment, il se passe tellement de choses que ça va trop vite pour tout suivre, ça fait partie des choses qui se passent très très vite et qui sont en train de changer. Mais là, l'effort de l'Iran pour sortir du coin où on l'avait mis, l'espèce de condition du méchant, du mauvais...
Je pense que c'est le seul endroit où les Américains, les Européens, tout ça, les Occidentaux, l'OTAN, quoi,
oui.
Ils n'ont pas réussi. Il y a la Syrie et l'Iran.
Tout à fait.
Ils n'ont pas réussi à les...
Et c'est pas pour rien que la Syrie et l'Iran se sont trouvés d'accord pour travailler à l'expulsion des djihadistes sur le sol syrien. Ouais. Voilà ce que je voulais souligner, sur cette région-là du monde, avec ses aspects donc militaires, et plus que ça, et la confirmation, ça a été fait encore il y a une... conférence de presse ou une conférence du président, enfin du guide suprême de l'Iran, confirmant que il ne cherchait pas à avoir une arme nucléaire, mais que la science nucléaire fait partie des sciences contemporaines qui peut être utilisée dans toute une série d'activités médicales, scientifiques, et que l'Iran ne s'interdit pas d'utiliser cette science-là au niveau où il le souhaite. Et il a même ajouté, nous avons monté le taux d'enrichissement de l'uranium jusqu'à 60%.
Ouais.
Alors, on frémit dans les capitales occidentales. Oui, 60%, ça s'approche du 90, c'est la bombe et tout.
Nathaniel qui
oui,
dit
oui,
ça.
Oui, non, il s'affole. Et en fait, il y a des usages scientifiques à 60%, et le président iranien a dit, mais c'est très simple, dès l'instant où les sanctions seraient levées et où l'accord sur le nucléaire reviendrait en vigueur, on arrêterait de monter à ces niveaux-là. On a monté à ces niveaux-là, puisque vous avez dénoncé l'accord, nous, on n'applique plus non plus de notre côté, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Bon. Mais on ne veut jamais les croire. Alors en attendant, ils font des trônes hypersoniques, puis ils disent, écoutez, voilà, nous on veut se défendre, on ne veut pas se laisser manger par vous. Bien. Je regarde l'heure. Alors on va faire une petite coupure musicale pour ne pas oublier de la faire. Et puis ça nous fera une transition pour le sujet suivant. Donc on va écouter donc un chanteur britannique qui est un ancienne vedette chantante des Pink Floyd, qui a quitté les Pink Floyd et qui chante tout seul, qui fait des tournées magistrales, c'est-à-dire il ne chante pas dans des cabarets, il chante devant des audiences de 3000, 4000, 5000 personnes un peu partout dans le monde. Il a fait une tournée récemment en Europe et en particulier en Allemagne, et en Allemagne on a commencé à lui vouloir du mal parce qu'il chantait des chansons pour la défense des Palestiniens. Et évidemment, comme cela se pratique dans la diaspora sioniste, on l'a accusé d'antisémitisme. Bon, c'est pas grave, c'est habituel, ça l'a pas empêché de chanter, et de toute façon, il a eu raison de dire ce qu'il a dit et de chanter ce qu'il a chanté. On va l'écouter. Merci Roselyne. Dans une de ses phrases, nous ferons tomber les murs de la prison. Et ça s'applique évidemment à la Palestine. Bien sûr, ça s'applique à la Palestine, d'autant plus que la semaine dernière, donc, le président chinois a reçu le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui est resté en plusieurs jours à Pékin. Et à cette occasion, donc, la Chine a produit un texte qui est tout à fait clair sur ce qu'est la Palestine aujourd'hui et ce qu'elle doit devenir. Et je lis les principaux paragraphes. La Chine soutient la Palestine afin qu'elle devienne membre à part entière de l'ONU. C'est-à-dire que pour l'instant, la Palestine est reconnue comme un État, puisque c'est l'ONU qui l'a créée, donc c'est difficile de faire le contraire, mais qu'elle ne peut pas exercer ses responsabilités, puisqu'elle en est au péché, elle n'arrive pas à être libre de ses mouvements, puisqu'elle n'a même pas de frontières qu'elle puisse franchir toute seule. Je signale qu'un bateau qui arrive à Gaza est empêché d'arriver à Gaza, qui donne sur la mer Méditerranée, par la marine israélienne, qui tire sur le bateau qui voudrait rentrer dans la Palestine de Gaza. Bon, c'est pour donner un exemple. Ensuite, la Chine précise « La solution fondamentale à la question palestinienne réside dans l'établissement d'un État palestinien indépendant avec pleine souveraineté sur la base des frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale. » Ça, c'est Xi Jinping qui le précise.
« Retour des peuples. »
Justice doit être rendue à la Palestine au plus vite et la Chine souhaite renforcer la coordination et la coopération avec les autorités palestiniennes en vue d'un règlement rapide, global, juste et durable du conflit. Et il a ajouté, la Chine est prête à jouer un rôle proactif dans les efforts déployés par la Palestine pour parvenir à une réconciliation interne et promouvoir les pourparlers de paix. C'est tout à fait important parce que quand le président chinois dit ça, il le dit auréolé des succès diplomatiques considérables qu'il a eu dans la région. Je rappelle donc la rencontre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et toute une série d'autres réussites. Et donc quand il dit ça, ça veut dire qu'il va y passer du temps. Et si donc il a décidé d'accueillir le président de l'autorité palestinienne, c'est qu'il va lui donner non seulement un coup de main, mais on sait quand on suit de près les affaires palestiniennes que Mahmoud Abbas n'était pas très très pas très combatif hein, et se laissait un peu promener par les Israéliens. Et donc maintenant avec l'aide de la Chine qui lui dit maintenant il faut y aller, et puis c'est clair au point de vue du droit international, l'État palestinien existe, il doit exister sur le territoire qui lui a été défini et c'est Jérusalem sa capitale. Alors ça, c'est un énorme coup de pied au derrière d'un certain Donald Trump qui s'était permis, justement par provocation, alors je ne sais pas s'il avait trouvé tout seul, mais c'est une grossière provocation, d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, précisément là où l'ONU avait dit que serait et est la capitale de l'État palestinien. Bon, alors donc ça, ce que dit Xi Jinping, il le dit en mots feutrés, il dit ce qu'a dit Trump, ça vaut rien pour moi, hein, c'est tout, il faudra un jour que son ambassade s'en aille. Ça veut dire que ça doit grincer quelque part au département d'État quand on s'entend. Parce qu'il ne le dit pas dans les termes crus où je le dis, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et puis il faudra un jour que les terres volées, que. Alors ça ne fera pas revenir les oliviers arrachés ou autre, mais que les terres volées soient rendues à leurs propriétaires.
C'était surtout les colons israéliens.
Voilà, et que les colons s'en aillent. Bon, alors ça, ça va créer. Alors je pense qu'effectivement, au niveau de la société israélienne, ça va assez mal se passer, mais dans la mesure où effectivement la Chine est derrière, c'est tout à fait la même position, la Russie et beaucoup d'autres disent la même chose, et le Pakistan et l'Indonésie et tout, et dans la mesure où l'Arabie Saoudite, qui à un moment donné a cédé au charme de Trump, etc., bon, l'Arabie Saoudite maintenant clarifie sa position, on a effectivement un facteur d'évolution considérable de cette situation. Et c'est pour ça qu'on sent bien qu'au niveau d'Israël, la situation politique est un peu explosive, très tendue. Très tendue parce qu'il commence à sentir que malgré le grand frère des États-Unis qui dit « je vous aiderai », là, ils ont beaucoup, beaucoup de monde qui commence à dire « non, la loi, c'est la loi, l'ONU, c'est l'ONU, les décisions de l'ONU sont celles qu'elles sont ». Et j'insiste parce que j'avais déjà fait en évoquant un livre qui est paru récemment sur Jérusalem-Est, il est parfaitement clair en termes de droit international que l'État palestinien, il existe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est même bien antérieur dans son existence, même en droit à l'État d'Israël. Et qu'il a un territoire qui a été défini par l'ONU. Point. C'est tout. Le reste, effectivement, c'est de la politique et c'est, ça consiste à dire aux sionistes, ben, écoutez, vous en avez un peu trop fait, mais maintenant, il faut revenir à autre chose. À aucun moment, personne, pas plus le président chinois que personne d'autre, a dit on veut du mal aux Israéliens. Simplement, il faut que les Israéliens respectent les règles du jeu, ce qu'ils n'ont jamais fait. Parce que, à part le fait d'avoir accepté la partition en 1948, je peux vous dire aussi, à la lecture du même livre auquel je faisais référence, que toutes les décisions, tous les votes de l'Assemblée générale concernant la situation de la Palestine ont été piétinés ou ignorés par le gouvernement israélien depuis 1948. Bon, ça doit cesser. C'est tout. Et maintenant, les conditions, l'équilibre international le permettra. On le souhaite. Le plus tôt sera le mieux. Alors, je reconnais que ce n'est pas une opération simple. Aller dire aux milliers de colons, maintenant, il faut rentrer chez vous, ça ne va pas être facile. Hein, et peut-être déboucher sur une crise réelle. Mais ils ne paieront là une erreur de leur gouvernement et surtout une erreur organisée, fomentée et suscitée par les États-Unis pour mettre le désordre pendant 50 ans dans le monde arabe. C'était ça le but de la manœuvre. À ce niveau-là, et je reviens un petit peu sur le sujet que j'abordais tout à l'heure, la question de l'armement nucléaire israélien ne pèse plus très lourd. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils pouvaient terroriser tous leurs voisins en disant « vous nous faites du mal, vous avez droit à un bombardement ». À partir du moment où les Iraniens ont des drones hypersoniques qui peuvent attaquer la centrale, l'installation nucléaire de Dimona dans le Negev, où sont préparées les bombes israéliennes, le dialogue devient très très différent, c'est-à-dire qu'Israël n'est plus du tout sûr d'avoir le temps et la capacité d'utiliser ce type d'armement. Et qu'il peut y avoir donc une réponse. Parce que je précise que dans les drones hypersoniques iraniens, on peut mettre une charge dedans, c'est-à-dire un explosif. Hein. Ah ouais. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait rien. Et à 15 000 km à l'heure, ça fait quand même d'assez gros trous dans les dispositifs adverses. Bon.
Et puis Israël, oui. C'est un petit pays, une superficie.
Mais oui, c'est tout petit, c'est tout petit. Donc,
c'est vite.
Voilà,
repéré,
et en fait, ils n'ont joué à être plus fort que. Enfin, se montrer plus fort que ce qu'ils n'étaient, que parce qu'ils étaient les représentants et l'avant-garde de la politique états-unienne dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire un facteur de désordre de toute une zone du monde. Bon, ce facteur-là de désordre est en train de se diminuer. Et puis, l'accord Arabie Saoudite-Iran. C'est très révélateur de cette fin. L'implication, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est important, de l'Iran dans la défense de la Syrie, attaquée aussi par les djihadistes, ça fait partie aussi de la transformation de la scène proche-orientale et moyenne-orientale. C'est à ça qu'on assiste. Et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Voilà, c'était ça que je voulais développer. Alors, qu'il s'est passé d'autres choses pendant ce temps-là, j'allais dire. Pendant ce temps-là, en Occident, on continue les errements habituels. Alors, dans les errements habituels, je veux citer une rencontre qui a eu lieu le 12 juin à l'Élysée, où sont venus le président polonais, M. Duda, le chancelier allemand Scholz et M. Macron, qui se sont avérés comme étant les trois plus combatifs ou les trois plus agressifs vis-à-vis de la Russie sur la question ukrainienne. Alors, on est assez étonné qu'ils s'enferment dans ce rôle-là. Mais ça commence à produire des effets. Je veux parler de la Pologne, par exemple, puisque, aux dernières nouvelles, les quotidiens des États-Unis, qui, on le sait, que ce soit le New York Times ou le Washington Post, sont assez souvent influencés par les sphères internes, Pentagone, FBI et CIA, commencent à dire qu'après tout, le dynamitage du Nord Stream, ça serait peut-être les Polonais qui l'auraient fait. Alors, bien entendu, c'est une façon de dire aux Polonais, on va tout vous mettre sur le dos, hein, même si vous avez servi à l'opération. Hein, donc, c'est une façon de faire comprendre aux Polonais que, petit à petit, le soutien extrême des États-Unis à leur politique va s'affaiblir. Parce qu'aux États-Unis, on commence à comprendre que la victoire en Ukraine, ça va être quand même assez délicat, et que donc les va-t-en-guerre extrémistes, donc je veux dire M. Macron, M. Scholz et M. Duda, vont commencer à gêner aux États-Unis. Ce qui n'empêchera pas, ce que je vois, M. Macron d'être plus états-unien, pro-états-unien que jamais, jusqu'au jour où il se retournera, parce que je le crois capable d'adaptation caméléonesque, ce personnage. C'est-à-dire, il n'a pas de structure à part son ambition et son égocentrisme. Et donc, le caméléon, pour survivre, passe du brun au vert, et puis voilà. Hein. Et la France, hélas, la France serait obligée de passer du brun au vert. Bon, c'est pas le cas de Comaguer, c'est pas le cas de Radio Galère, c'est pas notre cas, mais effectivement, quand on a un président caméléon, on peut avoir des surprises, et lui peut en avoir des surprises, parce qu'il ne se verra pas changer de couleur, mais ça apparaîtra très très vite. À propos de changer de couleur et des alliances étranges, j'avais évoqué la semaine dernière les rapports compliqués entre le Maroc et l'Algérie. Ouais. Alors je vais un petit peu plus loin parce que ça commence à s'organiser beaucoup plus sérieusement que ce qui n'y paraît. On avait, il y avait une tension, il y avait donc pratiquement arrêt du commerce transfrontalier entre les deux pays du Maghreb, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça puisque ce qui s'est passé aussi en même temps que le président de l'autorité palestinienne était à Pékin, le président algérien était à Moscou.
Ouais.
Visite historique s'il en fut.
Putain, donc, il a été voilà, bien reçu.
Où il a été tout à fait bien reçu. Où il y a eu des souvenirs communs évoqués, c'est très intéressant aussi. Et puis, on a vu que prenait corps une alliance, qui est celle de l'Algérie et de la Russie, contre une autre alliance qui est en train de prendre corps, qui est l'alliance Israël-Maroc-France.
Ouais, hein? Ouais.
Alors, il faut que vous le sachiez, parce que ça, c'est pas expliqué très clairement dans les journaux télévisés.
La France n'a pas besoin d'être là. Hein.
Voilà.
C'est dommage.
La France, à nouveau, tombe. Hein, le caméléon est tombé du côté sioniste. Et donc là, et c'est clair maintenant que l'Algérie a décidé de ne plus s'intéresser à la France. La France travaille avec les Marocains, ça on le savait déjà. Israël travaille de très très près avec les Marocains. Et donc, on a deux camps qui s'affrontent au Maghreb, hein, dont un camp qui est pro-français, le camp marocain, et un camp qui a décidé de ne plus travailler avec la France. Ce qui confirme que l'Algérie a décidé de ne plus travailler avec la France, c'est qu'après la visite du président Tebboune à Moscou, le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attaf, est en train de faire une tournée qui l'amène en Italie, parce qu'avec l'Italie, il n'y a pas le même type de problème qu'avec l'Espagne. L'Italie n'est pas allée mettre son nez dans les histoires du Sahara occidental. Il va aller en Serbie, dernier morceau irrédentiste de la Yougoslavie qui ne veut pas rentrer dans l'OTAN. Et il va en Allemagne, parce que de toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas travailler avec les Allemands. Et puis s'il va en Allemagne, ça veut dire que l'Algérie va se fournir de plus en plus avec du matériel allemand et n'achètera plus de matériel français. Merci. Parce que tout ça a un coût. La France coloniale et la France postcoloniale a longtemps considéré que le marché algérien lui appartenait. C'est terminé. C'est terminé. Et avec ce genre de position diplomatique, ça se terminera encore plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire que les Algériens, quand ils auront besoin de voitures, de camions, de machines-outils, eh bien, ils iront directement là où elles se fabriquent. Et puis, quand ils auront besoin d'avions de guerre, ben, ils achèteront plus chez Dassault, ils achèteront chez Sukhoi, en Russie, d'excellents avions. Alors, on l'avait déjà vu hier.
Ce problème d'hymne national, là, il y a un passage, soi-disant, contre la France, je ne sais pas très bien.
Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une référence à la guerre de libération.
Oui, il y a un passage où la France a protesté. Il faut l'enlever, ce passage.
Ah oui ?
Il y a quand même eu
une guerre de libération avec 1 million de morts algériens. Et puis, il y a eu les massacres à Sétif. Bon, qu'il y ait des phrases hostiles à la France, ça ne touche pas tous les Français.
Hein. Non,
mais
bien sûr.
L'histoire peut l'expliquer. Mais je n'ai pas suivi l'histoire. Voilà, il nous reste 5 minutes. Bon, c'est très bien. Alors, 5 minutes pour dire, j'ai cité l'Italie, du décès de M. Berlusconi. Alors, là aussi, très intéressant sur l'état de l'Occident. Voilà un monsieur qui a été Premier ministre, enfin, président du Conseil, comme on dit en Italie, pendant 17 ans, avec des alliances avec l'extrême droite, dans tous ses gouvernements, qui a été participant à la fameuse loge P2, qui était une loge instrumentalisée par les États-Unis pour faire des attentats pour empêcher que la gauche arrive au pouvoir en Italie, qui a organisé par exemple le massacre de la gare de Bologne, d'autres choses comme ça. Donc monsieur Berlusconi était un dangereux personnage d'extrême droite. Alors en même temps avec un aspect clownesque qui faisait rire, mais en fait du point de vue de son positionnement politique, d'abord il n'a pas fait grand chose pour son pays, hein, qui s'est affaibli plus qu'autre chose, et puis surtout il était c'était un monsieur à la limite de la normalité, enfin de la régularité. Et d'ailleurs les connaisseurs de l'histoire d'Italie disent qu'il s'est présenté comme Premier ministre pour éviter des poursuites judiciaires, parce qu'autrement il aurait fini en prison très très probablement. Bon. Il a eu dans son gouvernement une jeune femme blonde qui s'appelle aujourd'hui encore Madame Meloni. Donc si elle est au pouvoir, elle le doit aussi à ce genre d'influence, et c'est le même milieu qui s'exprime, c'est-à-dire un milieu corrompu, sans ligne politique, qui est prêt à tout, comme la loge P2 et tous les crimes qu'il y a derrière ça. Dernière chose, je voulais saluer un personnage intéressant qui s'appelle Edward Snowden. Ouais. Snowden qui depuis 10 ans donc, a fui les États-Unis, il est maintenant réfugié en Russie et il a obtenu récemment la nationalité russe. Et il faut revenir sur le personnage. Alors, il est moins connu que Julian Assange, on en parle moins, mais ce qu'il a fait était un travail très intéressant qui porte des leçons pour nous tous, puisque en fait, il a été le premier et le dénonciateur à partir de fuites qu'il a organisées depuis son lieu de travail. Là, il n'y a pas de souci, il a intérêt à ne pas revenir aux États-Unis parce qu'il finira sa vie en prison. Il a été le premier à expliquer que le gouvernement des États-Unis avait mis en place un système de surveillance et d'observation de la totalité de ses citoyens. C'est pas simplement un système politique, on surveille le téléphone d'un opposant, d'un premier ministre, d'un ci, d'un ça. Non, c'est tous les citoyens des États-Unis sont surveillés à travers leur mail, leur téléphone et tout. Bon. Donc, il a dénoncé l'état policier contemporain avec les techniques contemporaines de surveillance qu'on connaît, avec la contribution de nos Google, etc., de toutes ces entreprises-là. Et donc, je voulais saluer M. Snowden, et puis je voulais rappeler, ce qui est peu dit, qu'il a été un des dénonciateurs de fait de la politique de M. Obama. Il faut savoir que M. Obama est arrivé au pouvoir en faisant un discours qui était repris de Snowden sur la base « on est tous espionnés, c'est pas bien ». Et il faut savoir aussi qu'il n'a pas été sitôt arrivé qu'à la Maison-Blanche qu'il a repris toutes ses activités de surveillance et qu'il a été le président le plus espion de son propre pays pendant les deux mandats qu'il a fait. Ça vaut bien un prix Nobel de la honte, hein, mais il a eu l'autre.
Il a eu l'autre,
pas de chance. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Et dernière chose, mais j'en parlerai, je pense, la semaine prochaine, je voulais souligner qu'il s'est tenu un sommet économico-international à Saint-Pétersbourg, oui. dont l'épaisseur est considérable, c'est-à-dire que à travers toute une série de témoignages qu'il y a eu, ça a duré 3 jours, et il y avait des tables rondes, des rencontres un peu partout, les témoignages qu'on peut déjà rassembler, parce que ça a été une espèce d'effervescence à Saint-Pétersbourg, les témoignages sur le fait que l'Eurasie et le monde nouveau est en train de s'organiser, et que Biden a beau dire God save the Queen, c'est tout ce qu'il est capable de dire. Vous savez qu'il a dit, au lieu de dire God bless America, il a dit God bless the Queen. Bon, un coup de fatigue, mais il en aura d'autres. Donc le nouveau monde est en train de s'organiser. Les États-Unis ne sont pas dedans parce que c'est eux qui ont organisé l'ancien monde. Il est dommage, et je souligne, il est dommage que la République macronienne se situe dans l'ancien monde. Mais quoi on peut avoir le président le plus jeune et les idées les plus vieilles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Roselyne.
Merci.
Et on se retrouvera.
Et à bientôt.
On se retrouvera dans 8 jours. Bonne semaine à tous.